aujourd'hui, Ouvert au public reçoit les danseurs et chorégraphes Antonino Cerezia et Fabio Dolce de la compagnie SFS. Ce samedi, ils présentent à Clap Maison pour la Danse dans le cadre du festival Plus de Genre une soirée qui s'intitule « Les transdances, l'un contre l'autre, l'hymne à l'autre » ou alors un triptyque et trois projets portés par la compagnie SFS. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Donc alors, rentrons dans le vif du sujet avec cette soirée qui présentera un documentaire, un extrait de la création en cours l'un contre l'autre et un court-métrage dansé d'Antoine Capliez, l'hymne à l'autre. D'où vous est venue cette idée en fait de proposer une soirée en trois temps? Fabio, Antonino, qui parle en premier? Fabio.
Vas-y, Fabio.
J'y vais. Ok. Donc, merci Laurent de nous recevoir. Le thème de cette soirée, c'est justement l'hymne à l'autre, l'autre entendu comme l'autre personne, et l'autre, le grand autre, comme la symbolique, le langage, etc. Et en fait, avec Antonino, on travaille depuis un petit temps maintenant avec un public de personnes transgenres, non-binaires, et un questionnement d'identité de genre. Et le festival Plus de Genre de Clap, évidemment, va tomber un peu parfaitement en symbiose avec notre démarche avec Antonino. Et il est vrai que dans notre travail, que ce soit dans le travail chorégraphique et dans le travail qu'on mène social, socioculturel, etc., à travers nos actions à Marseille et puis un peu à l'international, il y a toujours une lutte. En fait, on est un peu dans une lutte pour l'inclusion, pour l'inclusivité. On a vraiment envie d'ouvrir un maximum la possibilité pour tous de pouvoir à la fois s'exprimer, à la fois partager la scène avec nous ou sans nous, et surtout partager la danse.
Donc, on débute la soirée avec un documentaire oui, de Mylène Crissot, qui s'intitule « Les transdances ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce documentaire?
Alors, le documentaire, disons qu'il est parti d'une envie de créer un lien entre le travail qu'on propose et aussi d'ouvrir la danse à des publics qui n'ont pas facilement accès à la danse et aux arts, et que avec ça arrive à s'exprimer, arrive à exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. Et alors c'est vraiment dans cette démarche qu'on projette avec Fabio, c'est vraiment de proposer quelque chose qui ouvre un mouvement, une expression qui soit autre, qui puisse faire thérapie, qui puisse aider de par soi-même, de par son expression à soi, d'ouvrir à la communauté, à la communication, de dénouer certaines choses qu'on n'arrive pas forcément à dénouer facilement ou avec la parole. Et avec ce processus, on arrive justement à cheminer, à arriver à symboliser, à dire peut-être autrement les choses.
Les choses.
Mmh. Voilà. Et ce projet, il se veut à la base aussi comme un documentaire pour créer des archives et des références de travail qui sont faites pour le public trans. Mmh.
Non, on imagine que donc la durée du documentaire est de 15 minutes, mais on imagine qu'il a fallu faire des choix en fait, et pour savoir ce que vous vouliez aussi montrer et garder secret. En fait, le tournage s'est passé comment?
C'était tout de suite entre les deux confinements, en fait, où avec Antonino, on avait envie de faire quelque chose et on s'était rapproché justement de l'association Transat. Et c'était le mois de mai. Le 17 mai allait arriver. Le 17 mai étant la journée de lutte mondiale contre la transphobie et l'homophobie, on s'était dit avec Lee, qui est le président de Transat, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a ouvert des ateliers de recherche chorégraphique avec des personnes transgenres et non binaires. Et on a demandé à Mylène Crissot de suivre un petit peu le travail pour ensuite en faire un mini-documentaire au même titre que nous, on puisse avoir un peu de temps aussi pour créer la performance. Donc on a créé la performance pour le 17 mai. Et elle, par contre, elle a suivi le processus de création et non pas la performance en tant que telle. Donc dans le documentaire, on voit un peu les ateliers qui nous ont amenés vers la performance. Et on lui a laissé libre arbitre pour le choix d'image. Il nous a interviewé, il nous a interviewé nous avec Antonino, et il a interviewé aussi quelques personnes trans, donc quelques participantes. Et c'est fou d'ailleurs maintenant, parce que quand on le regarde, ce documentaire, moi je m'entends parler, je dis des choses qu'aujourd'hui je dirais plus du tout, grâce ou à cause de l'expérience qu'on a eue. Non, grâce surtout à l'expérience qu'on a eue avec les personnes trans. Du coup, parfois, j'entends des phrases où je me dis, ah, bah, ça semble plus trop bien maintenant pour moi. Mais bon, c'est tout le début, justement. Et comme le début de tout, il faut apprivoiser la différence, il faut apprivoiser la diversité. Et c'est ça, pour moi en tout cas, et pour Milan, je pense aussi, que fait preuve de faire un pas vers l'autre. Et on pourrait dire que cette soirée, justement, à Clap, c'est d'ailleurs l'hymne à l'autre, l'un contre l'autre. On voit bien qu'il y a un pas qu'on souhaite faire vraiment vers l'autre, l'autre étant vraiment la profonde diversité de soi. Donc c'est pour ça qu'on allait vers les personnes trans, parce que ni non, ni moi sommes trans, mais c'était important pour nous, pour un message un peu démocratique et à la fois politique, dans le sens où on a envie de vivre tous ensemble. Et tous ensemble dans nos diversités, avec nos diversités et nos singularités. Donc, le projet est né un peu de cette question-là, comment faire pour traiter des thématiques qui ne nous concernent pas au premier abord directement, mais qu'en fait, oui, parce qu'on est tous concernés.
Ouais, de toute manière, ça nous concerne même de façon transversale. Et puis, je dirais aussi que la chose qui nous a semblé intéressant, qui nous a formés, qui nous a fait évoluer aussi dans le langage, dans la façon de s'exprimer. On trouve tous les deux que c'est la chose la plus importante. Finalement, le langage, comment s'adresse à l'autre, comment on invite l'autre dans ces espaces de non-jugement, et que les personnes puissent se sentir vraiment dans son propre espace, finalement, même si c'est un espace partagé. Qu'ils puissent se sentir en sécurité de pouvoir exprimer cette chose qui surgit de façon spontanée et sans se retenir. Disons que grâce à ça, enfin, ça nous a formés vraiment dans comment s'exprimer, comment s'adresser à l'autre. Et comme il disait Fabio, effectivement, certaines choses qu'on dit dans les vidéos, c'est pas pure inexpérience avec le public, avec les personnes trans, mais ça nous a permis ce rapprochement, ça nous a permis d'évoluer vraiment dans le langage qui est vraiment la source. De la communauté, d'aller vers l'autre.
Tout à fait. Est-ce que, donc, lors de ces workshops, en fait, du coup, est-ce que vous avez été étonné par ce que vous touchiez, par le mouvement, par ce que le mouvement faisait ressurgir, faisait jaillir, en fait, de blessures profondes, certainement?
Moi, de mon côté, je dirais qu'il y a à la fois un regard en tant que chorégraphe,
Mm-hmm.
Et un légal en tant que médiateur ou art thérapeute, parce qu'on est tous les deux art thérapeutes.
Bien sûr.
Donc on essaye quand même, en maîtrisant à la fois le métier de la médiation artistique et de l'art thérapie. C'est sûr que tu es appelé par la beauté d'une proposition, et c'est quelque chose qui te parle à toi personnellement. Donc tu es appelé par ça, mais du coup, pour revenir, il y a ces deux côtés. Donc le côté du regard du chorégraphe qui est appelé par la beauté du moment, par la beauté de la relation entre deux êtres à ce moment-là, etc. La proposition du geste. Et de l'autre côté, quand même être maître de cet espace qu'on a soin d'accompagner pour qu'il y ait moins d'injonctions de notre part lorsqu'une personne s'exprime.
D'accord.
Et moi, je
Fabien?
dirais par rapport à justement, on parlait de langage, on s'aperçoit que le langage, c'est la source première de souffrance, d'ailleurs. Parce que quand on se trompe dans comment on genre les gens, par exemple, et déjà ça fait preuve de l'importance de ce langage qui est souvent source de souffrance. Et la danse, évidemment, ça libère de tout ça parce que bah, on ne demande pas aux gens de parler, pour le coup. On se concentre vraiment sur le mouvement instinctif, sur l'émotion du mouvement. On est ailleurs, on est déplacé. Et ce qui a permis, moi je trouve en tout cas, ces ateliers, a été le fait de... Enfin moi j'étais impressionné par la vitesse à laquelle les gens commençaient à se toucher quand au premier abord, elles se disaient surtout, vous ne me touchez pas. Et au bout d'un quart d'heure, on se roulait les uns sur les autres, sans parler, parce que nous on a tendance à pas trop parler quand même quand on intervient en tant que médiateur. Et dans ce cadre-là, en tout cas, c'est un atelier qu'on a conçu spécifiquement pour les personnes trans. Et souvent, on est dans le bain, on est dans le bain, on est avec Yen. Et par le mouvement, les tâches, entre guillemets, les activités changent, les activités proposées de danse change et du coup les personnes bah, sont déjà dans ce mouvement, dans ce bain langagier de mouvement, on va dire, qui les amène ailleurs. Et petit à petit, le toucher, moi je suis toujours émerveillé devant le pouvoir du toucher, qu'évidemment il faut faire attention avec en fonction avec qui on travaille, mais il n'empêche que même venant d'elle et d'elle, et vous le verrez d'ailleurs dans le documentaire, comment ce facteur de se toucher a été quelque chose de révélatrice et communautaire aussi.
Bien sûr, oui, on l'imagine en tout cas. Donc, la soirée débute donc par ce, en tout cas, et vous donnez très envie de découvrir ce documentaire donc qui s'intitule Les Transdances de Mylène Crisseau. Et on glisse comme ça au cours de la soirée, et second volet, ça sera l'extrait de la création en cours, l'un contre l'autre. Un magnifique duo
Merci.
avec une écriture ciselée, ultra précise, où la relation, où en fait vous illustrez parfaitement le mot relation, la relation de l'un avec l'autre. Et du coup, ça donne quelque chose de magique quand on regarde les images, parce que on voit que l'un et l'autre, vous êtes à l'écoute. Au moindre. Alors on imagine que même la respiration a son importance dans ce duo.
C'est notre musicalité en fait, c'est notre musique parce qu'il est en silence. Donc c'est la respiration qui vient rythmer vraiment notre relation dansée au moment T du duo.
Ouais, comme Fabio dit, finalement, voilà, la musicalité de ce duo est retenue dans cette relation, comme tu dis, parce que c'est des relations vraiment c'est vraiment dans ce rapport de l'un contre l'autre, de l'un derrière l'autre, de l'un à suivre l'autre, de l'un à atteindre l'autre, qu'on a construit ce duo et créé finalement la musicalité plutôt des pas. En fait, c'était une révélation, ça, à un moment donné, parce qu'on avait de la musique. On travaillait tout le temps avec une musique que Romain Wojtyk, qui est notre ami et compositeur musicien, qui travaille avec nous depuis quelques projets. On avait créé, pendant une résidence, on avait créé une app musicale et, qui nous plaisait beaucoup, qui nous plaît beaucoup d'ailleurs. Et du coup, on a commencé à travailler sur cette nappe sonore et on trouvait que c'était bien. Et après, un jour à Avignon, quand on était au théâtre de Loul, par pur hasard, on a répété sa musique parce que Roman devait nous filmer pour créer les images que vous voyez dans les teasers. Et finalement, c'était une surprise, quelque chose d'ailleurs qui a créé débat entre nous. C'était toujours un peu travaillé, mais c'était intéressant d'échanger sur ça. Et puis finalement, on a pris le choix voilà, de le faire sans musique, de le faire brut, sans personne, enfin, qui avait qui ces deux corps, avec une lumière brute et cette relation qui se construit, qui naît et qui devient le point, voilà, le point fort entre ces deux hommes, ces deux créatures, ces deux choses.
Alors donc c'est très bien que tu emploies le terme créature parce que justement de ce duo dansé on va voir apparaître une créature telle que vous la nommez telle qu'elle est nommée en tout cas. Et en fait, c'est vrai que on aurait dû commencer par ça, en fait, par ce point-là qui est très important, c'est que avec vous, en fait, les créations que vous proposez sont toujours très philosophiques. Il y a toujours une recherche profonde pour mettre du mouvement sur ce qui peut animer cette recherche. Sur la précédente création, on était dans l'univers de Dante pour la Divine Comédie. Et là, vous exhumez, j'aurais tendance à dire, parce que pour le coup, pour moi, ça a été vraiment exhumé. Vous exhumez le poème de François d'Assise, Le Cantique des créatures, qui est une ode à l'univers, à la beauté du monde, au monde dans son entièreté, et aussi qui met aussi en surbrillance, en fait, j'aurais tendance à dire, tous les problèmes écologiques. Et du coup, en fait, d'où vous est venue l'idée de travailler à partir de ce poème? Fabio, Antonino, Fabio?
Oui, en fait, bon, comme tu l'as très bien dit, le Cantique des créatures, ce sont des odes à la création. Et qui dit ode à la création dit respecter évidemment la création de Dieu pour François d'Assise, parce qu'évidemment, c'est un chrétien par excellence, je dirais. Et du coup, on s'est dit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en termes de désastres écologiques, réchauffement climatique, etc. On s'est dit, bon, ok, qu'est-ce que nous, on pourrait apporter en tant que chorégraphe, danseur aujourd'hui dans le paysage chorégraphique et surtout dans la société, parce que pour nous, tout acte chorégraphique est un acte social et politique. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait aborder à travers une poésie la problématique de l'écologie d'aujourd'hui? Donc, on est plongé évidemment sur le Cantique des créatures, qui est un poème qu'on étudie en Italie, évidemment, dont on a connaissance. En plus, on a la chance de connaître des peintres siciliens qui ont travaillé là-dessus. Du coup, on a vu pas mal d'expositions. Et puis, sur François d'Assise aussi, parce que François d'Assise, il faut savoir qu'il est un personnage historique qui est très, très intéressant pour nous, en tout cas, parce qu'il incarne. Dans le même corps, il y a deux vies opposées qui se sont passées. C'est-à-dire, lui, il était l'homme du péché, entre guillemets, absolu pour la religion catholique, on va dire, parce que c'était un homme qui aimait bien, évidemment, les filles, enfin, des relations sexuelles avec plusieurs filles, qui allaient dans des bordels de l'époque, etc., pour assouvir un peu son désir. C'était un fils d'un d'un marchand très très riche. Et en fait, un jour, il décide de tout quitter pour suivre l'amour et la religion. Donc, il est passé de l'homme de péché à un saint. Après, il est devenu un saint, évidemment. Et puis, il a amené tout le mouvement des franciscains avec lui. Et donc, on s'est dit, avec Antonino, puisqu'on est deux personnalités quand même qui se suivent, peut-être depuis plusieurs vies, on s'est retrouvé dans ce personnage de François d'Assise. On s'est dit, en fait, lui, c'est l'incarnation d'une dualité qui est primordiale de l'être humain, finalement, et de tout ce qui est relation à l'autre. Parce qu'en fait, on n'existe pas sans l'autre, on n'existe pas sans le regard de l'autre. Un homme seul dans le monde, bah, en fait, il n'existerait pas tant qu'on connaît l'humanité. Donc, on s'est dit, OK, partons sur François d'Assise, cette dualité qui pour nous représente l'essence même de l'être humain, et son Cantique des créatures, qui là représente une problématique d'aujourd'hui très très importante, qu'on a envie de défendre aussi d'une certaine manière. Et on s'est dit, puisqu'avec Antonino, la poésie, c'est quelque chose qui nous inspire depuis, bah, comme tu l'as bien dit, depuis Dante, depuis plus
Et
de
puis,
3-4 ans maintenant. Et puis même Antonino, bien, bien avant notre collaboration, il travaillait sur des livres avec d'autres. Enfin, on a été toujours inspiré par la poésie. Et là, on s'est dit, OK, bon, les Cantiques des créatures, ce sont des louanges à la nature, et à la création et aux créatures. Qu'est-ce que c'est la créature pour nous aujourd'hui? Donc, on est arrivé à se questionner sur le mot créature. Et évidemment, on est tous les deux queer avec Nino. Donc, on s'est dit, pourquoi pas explorer aussi l'image de la créature queer par excellence, qui est la drag queen, et voir comment, à travers une créature drag queen, on pourrait traverser plusieurs formes de créatures. Et on est plongé dans la mythologie, évidemment. Donc, on est passé dans des personnages un peu mythologiques, dans des créatures mythologiques, telles les Minotaures, et
La
d'autres.
sirène.
La sirène, l'idée de la sirène. Pourquoi la sirène? Parce qu'on est arrivé, enfin, avec un jeu de mots toujours, avec cette alarme, la sirène qui est là, justement, de cette problématique écologique qui est là, qu'on l'entend bien. Et de plus en plus, donc on est arrivé à la sirène mythologique, au chant de la sirène, parce qu'on a la chance de travailler avec Loïc Basile, qui est notre, donc le quatrième artiste en scène, qui est drag queen aussi. Son nom de drag, c'est Don Giovanna. Et lui, il a une voix magnifique. Et donc on a commencé à travailler les bruitages des créatures, des possibles créatures, mais la créature en tant que créature animale, comme une créature mythologique telle la sirène. Donc on a imaginé qu'elle pourrait être un chant d'une sirène, mais jusqu'à en arriver au chant des étoiles, au chant du vent, au chant de la terre, d'un volcan qui est en ébullition.
Oui,
Ça s'est
tout à
dit?
fait, ça se dit.
Et donc on a commencé à explorer avec la voix de Loïc. Tout ce qui était de l'ordre de la créature, comme je viens de le dire, en passant par tous ces personnages, par toute cette création de l'univers, et voir comment ça peut résonner ensemble avec nous, notre danse, et Romain, qui lui, pour le coup, joue aussi en scène avec nous, avec la Nickel Harpa, enfin le Nickel Harpa, et il nous chante une chanson. Parce que, évidemment, le fait que François d'Assise donc a créé ce cantique des créatures qui à la base était un chant. D'ailleurs, les notes ont été perdues. On n'a plus que la poésie qui est restée. Mais à la base, c'était un chant. Donc, pour faire le parallèle avec le Moyen Âge, toujours comme on a fait avec Dante, on s'est dit bon, comment est-ce qu'on pourrait, quels seraient les cantiques d'aujourd'hui sur les créatures et qui fassent un peu résonner cette problématique écologique? Et donc, on a décidé avec Romain d'écrire une chanson. Qui t'as dû d'ailleurs entendre dans le teaser que.
Tout à
Enfin,
fait.
dans les.
Déjà, tu me devances parce que j'allais en parler.
Non.
Mais c'est parfait, mais je te laisse continuer.
Et donc, on s'est dit, quel serait un cantique moderne qui pourrait un peu faire sirène, c'est-à-dire appeler à l'ordre dans l'humanité pour. Ok, bon, on en est là. Évidemment, nous, on ne veut rien apprendre à personne. Enfin, tout le monde est au courant de ce qui se passe. C'est juste peut-être ramener une note poétique là-dessus pour que, comme on disait tout à l'heure, à travers la danse, à travers la poésie, on peut peut-être aller éveiller quelque chose d'autre qu'on n'entend pas forcément par les réseaux sociaux, par la télévision, par les journaux et tout ça. Donc comment est-ce que nous, on pourrait contribuer à notre sauce avec une petite note poétique de chansons, de danse et de créatures?
Donc c'est une création qui est en cours à terme. Donc là, vous allez présenter 10 minutes, si mes souvenirs
Oui,
sont bons.
22 minutes,
22 minutes, pardon, non, c'est l'autre chose qui dure 10 minutes.
C'est ça.
Attends, voilà. Donc, les 22 minutes. Donc, du coup, la création est prévue pour quand?
La création est prévue pour 2025. Normalement, on va présenter à CLAP au printemps 2025 la création. Et aussi, là, récemment, on a, comment dire, décoté pardon, une période de résidence à Catane, chez Scenario Pubblico, qui nous soutient et qui nous en sert aussi dans leur festival. Ça s'appelle FIC Festival, qui sera à Catane, et ça sera aussi au printemps, oui, mai 2025.
D'accord.
C'est avec Zappala.
D'accord.
Oui, c'est Zappala, oui, la compagnie de Zappala.
Très bien. Donc, 2025, année chargée.
C'est ça. On est chargé en chasse de la créature.
C'est ça, tout à fait. Et la soirée se terminera avec ce court-métrage d'Antoine Capliez, L'hymne à l'autre, qui raconte votre amitié à travers la danse et à travers tous les projets en fait que vous portez en commun. Parce que c'est ce qui est assez fou pour le coup. C'est vrai que quand on voit deux chorégraphes interprètes dans une même compagnie, on a vite tendance à parler de collectif. Or là, c'est vraiment un duo de danse en fait. Et vous êtes tous les deux à porter les projets. Et du coup, j'imagine qu'Antoine Capliez a croqué ceci à travers son court-métrage.
Ce qui est intéressant, moi, je trouve dans ce court-métrage, c'est ce départ, ce regard du 1 qui est formé de deux, mais qui est toujours un, qui à l'origine était un, mais que. Puis on revient toujours à la même chose, hein. On revient au fait que on est celui qu'on est parce qu'on a le regard de l'autre, parce que l'autre nous renvoie quelque chose. Et donc c'est un besoin, finalement. Et je pense que c'est ça vraiment le point central de la chose, le besoin de l'autre. Et comment dire, de ce qui était à l'origine, cette chose qui s'est divisée par pur besoin de se regarder à travers l'autre. Et c'est le mouvement, en fait, c'est un mouvement, c'est presque comme une danse, cette séparation de cet originel pour que ça fasse deux. Et ça amène une danse, ça amène cette amitié, ça amène cette écoute, parfois des contrastes, mais ça amène surtout une danse qui devient toujours plus sincère, une amitié qui devient toujours plus sincère et toujours plus à l'écoute.
Et pour la petite anecdote, en fait, Antoine, quand il nous a rencontrés à la base, il voulait faire un documentaire sur notre projet Danse en Transe, qui est les Transdances. Avant, le projet s'appelait les Transdances, aujourd'hui, il s'appelle Danse en Transe. Et en fait, il était très intéressé pour mettre en scène nos ateliers de danse avec les personnes trans, non binaires et un questionnement d'identité de genre. Et quand il nous a d'abord raconté bon, qui vous êtes, on lui a un peu parlé de nous. Et là, il a changé de perspective en se disant, bon, en fait, c'est de vous qu'il faut que je parle dans mon film, parce que c'est son film, c'est ses images. Nous, on a très peu contribué, on va dire, au choix des images qu'il a fait, parce que c'était son projet avec une école, etc. Mais on était le sujet, du coup, de son projet. Et quand on lui a raconté notre histoire, en fait, il a voulu la raconter, et il a compris, en nous écoutant, pourquoi on a fait ce pas vers les personnes trans. Parce qu'à la base, on est des êtres très différents avec Antonino, mais qu'on a cette amitié depuis plus de 20 ans maintenant. Et quand il a écouté comment on s'est rencontrés, comment la danse nous a liés et comment la danse a été vraiment source d'énergie qui nous amenait à chaque fois l'un vers l'autre et ensemble vers ce fameux grand autre ou cet autre qui nous dépasse en fait, qui est, encore une fois, qui est profondément différent de nous, d'où le projet dans son transe. Et
Et
c'est
qui
ça qui
nous
l'a.
a... Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y.
Et c'est ça qui l'intéressait en fait dans ce film, de mettre en scène en fait et un court-métrage, ce lien d'amitié qui nous amenait d'abord donc l'un contre l'autre, l'un vers l'autre, et après vers les personnes trans.
Ouais, c'est aussi comme une attraction, enfin d'exprimer cette attraction vers les autres aussi parce que on fait partie de la même communauté et en fait ce qui nous intéresse aussi avec Fabio c'est que étant faisant partie de la famille LGBTQIA+, voilà, il y a beaucoup de discriminations déjà à l'intérieur de cette communauté. Il y a beaucoup de différences, beaucoup de regards marginalisants. Du coup, ce qui nous intéressait, c'est vraiment comment on peut faire quelque chose de nous qui faisons partie de cette communauté. Comment on peut contribuer pour rapprocher les différentes lettres de cette famille. Voilà.
Du coup, ces fameuses lettres, effectivement, de la famille à laquelle vous appartenez, à laquelle j'appartiens et à laquelle finalement tout le monde appartient, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui vous chagrine en fait dans le fait que au sein de cette communauté, il y ait quand même des résistances, on va dire des interstices où en fait il y a vraiment où la violence peut s'exprimer, où il n'y a pas l'accueil de l'autre en fait, du coup.
J'ai l'impression que même au sein de la communauté, effectivement, cette violence, encore une fois, j'ai le sentiment qu'il vient de notre culture, de la culture à tous en fait. On est tellement imprégné, on a beau être queer, on a beau être gay, on a beau être lesbienne, on a beau être trans, à un moment donné, l'éducation qu'on a reçue vient ressurgir, et souvent par le langage, encore une fois. Donc le langage fait partie de la culture. Et c'est intrinsèquement lié en fait à notre inconscient. Et moi parfois je me retrouve en toute honnêteté à avoir des pensées un peu racistes des fois. Et je me dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je pense? Enfin, je pense à ça, mais c'est pas normal. Enfin, il faut pas que je pense à ça. Et en fait, j'y pense inconsciemment. Ça vient dans ma conscience. Le temps que je conscientise et que je la refoule, encore une fois, parce que je sais que c'est pas bien. Mais malgré ça, ça fait partie d'une culture. Je veux dire, ma grand-mère, elle fait pas de différence entre un Chinois et un Japonais. Pour elle, c'est tout le monde des Chinois. À partir du moment où on a les yeux bridés, c'est des Chinois. Et j'ai une copine japonaise qui est venue manger à Noël dans notre famille, et il appelait à chaque fois la chinoise. Et donc, évidemment, c'est très raciste. Et j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi avec ça. Donc, c'est un effort conscient qu'il faut qu'on se doit de faire chacun et chacune d'entre nous, même au sein de la communauté, parce qu'on est loin d'être exclus, pour pouvoir avoir un discours, en fait, en toute ouverture, en toute acceptation de la différence, encore une fois. De la différence profonde. Moi, peut-être, parfois, j'exagère un peu dans mes propos, mais je me dis peut-être que le moment où on sera vraiment inclusif, c'est quand un gay il pourrait s'asseoir avec un homophobe et pouvoir discuter de chacun de sa vie en acceptant la différence des uns et des autres, parce que l'homophobie, c'est un problème qui vient aussi souvent par ignorance, par refoulement, enfin, on le sait. Donc peut-être c'est aussi à nous, je me dis, même si on n'a pas tous la force pour le faire, je l'entends complètement, mais de s'ouvrir à la possibilité de pouvoir discuter avec un homophobe, en l'occurrence, si je continue avec cet exemple, pour pouvoir échanger et éventuellement lui donner une opportunité de pouvoir s'ouvrir à une personne gay, en sachant qu'il risque rien en fait. Et juste aller vers ça, comment on ouvre un dialogue dans une véritable inclusion des deux côtés. Parce qu'étant une minorité, on a tendance à penser que c'est aux autres de nous laisser la place. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un pas qu'il faut qu'on fasse les uns vers les autres. Même si évidemment, on est une communauté qui en a beaucoup souffert et qu'il y a eu énormément de discrimination et des violences atroces sur la communauté LGBT. Mais aujourd'hui, je me dis comment faire pour faire avancer la chose, et notamment quand on se rend compte que même au sein de la communauté LGBT, il y a énormément de discrimination, de violence, quoi.
Et puis la danse, ce qui est intéressant dans ce qui nous chagrine en fait, c'est que la danse peut contourner par d'autres voies ces différences, ces différences d'idées, ces interstices qui créent de la violence, et en faire quelque chose qui rapproche les gens. Qui les rapproche d'une autre façon, et laisser la possibilité, après cette expérience, de pouvoir élaborer ce rapprochement qui était quelque chose, qui est quelque chose qui s'est fait de façon douce, de façon bienveillante, de façon à être à l'écoute de l'autre. En fait, finalement, indirectement, c'est qu'on met au travail avec la danse. Ça nous apporte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de possibilités de pouvoir réfléchir, de pouvoir élaborer, de pouvoir se réajuster par rapport à l'autre.
Très bien, j'ai rien à rajouter. Donc, en tout cas, vous donnez rendez-vous au public samedi 16 mars à partir de 18h pour la soirée, le début de soirée, vu que c'est à 18h. Les trans dansent l'un contre l'autre, l'hymne à l'autre. Alors, on va quand même le dire aux personnes qui nous écoutent, c'est complet. En
Oui, c'est bien
fait.
complet.
Le début des soirées est complet. Ceci étant, vous pouvez quand même tenter votre chance et aller du côté de Clap le jour même à l'ouverture de la billetterie à 17h pour vous inscrire en liste d'attente. Parce que, sincèrement, si vous êtes du côté de Marseille, mais vraiment tentez votre chance pour aller découvrir l'univers de la compagnie SVC et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, mais alors absolument pas. Merci beaucoup Antonino, merci beaucoup Fabio
Merci Laurent, merci à toi.
et hâte de vous voir en vrai, on va dire.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir, Marseille ou ailleurs.
Mais tout à fait, absolument.
Ouvert au public.
Ouvert.
Ouvert au public.
Ouvert au
Ouvert au public.
Public.